13h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors 7h, c'est la vôtre. On va parler pendant une heure de la garde alternée pour les enfants de parents séparés. La moitié du temps chez maman, l'autre moitié chez papa. Vous la pratiquez peut-être ou vous avez forcément des amis divorcés qui ont choisi ce mode de garde. Car c'est vrai, dans la loi depuis 2002, la garde alternée se développe petit à petit en France. 400 000 enfants vivent ainsi aujourd'hui à mi-chemin, entre deux parents, entre deux maisons et avec au milieu une valise. Quand les parents la demandent ensemble, le juge l'accorde dans 97% des cas, mais les pères la demandent peu. Ils préfèrent laisser la garde à la mère parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire, parce qu'ils ont peur qu'on la leur refuse, parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas bon pour les enfants. Et c'est vrai, pendant longtemps, les psychiatres ont considéré que ce ballottement entre le père et la mère n'était pas bon pour les petits. Aujourd'hui, avec du recul, il se pourrait que la garde alternée soit le moins mauvais des systèmes pour garder le lien avec chacun des deux parents et en particulier avec le père. La garde alternée est-elle finalement la meilleure solution pour les enfants de parents divorcés? C'est notre sujet aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons avec impatience vos témoignages, que vous soyez parents, enfants ou ados. Racontez-nous comment ça se passe, les avantages et les inconvénients de la garde alternée. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, et pour joindre Ève Roger, contactez le standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes d'euros la minute ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
J'ai fils en souffrance. Un mot à double sens, papaouter la question. Puis le verbe en papaouter qui veut dire duper quelqu'un en argot. Stroma est donc pour commencer cette émission avec vous, Ève Roger, et votre premier témoignage.
Et oui, nous sommes en ligne maintenant avec Lucas. Bonjour Lucas, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Lucas?
Alors, j'ai 27 ans et je vous appelle de l'Essonne, en région parisienne.
Alors, vos parents, vous, se sont séparés alors que vous aviez 6 ans et la garde alternée ne s'est pas imposée tout de suite, hein?
Non, mais ça a été très rapidement mis en place.
Mmh. Et vos parents habitaient près l'un de l'autre pour pouvoir mettre en place cette garde alternée?
Oui, ils habitaient dans la même ville.
Dans la même ville. Alors comment ça s'est passé? Quand vous étiez petit, là on va parler de votre petite enfance avant l'adolescence, est-ce que vous aviez de bons souvenirs de cette garde alternée?
Oui, parce que dans mes souvenirs, ça s'est toujours très bien passé. Mes parents se sont toujours bien entendus suite au divorce. Donc, en fait, il n'y avait vraiment aucun problème, que ça soit pour le passage de chez l'un à chez l'autre. Les deux étaient toujours disponibles, même s'ils avaient besoin d'un coup de main entre eux.
C'était une semaine, hein, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre.
C'est bien ça, oui.
Et vous, et ils suivaient votre scolarité ensemble? On a l'impression qu'ils vivaient encore presque à côté de vous, ensemble.
Ah oui, alors pour la scolarité, c'est le point où ils ont toujours été d'accord, c'est d'être toujours à deux pour nous suivre, mes frères et moi, et nous suivre tout le temps. Quoi.
Donc ça s'est bien passé. Vous avez pas de mauvais souvenirs de cette période?
Non, vraiment. Je pense que je devais être, surtout à l'époque, dans les premiers cas de garde alternée, je devais être dans les conditions idéales.
C'est ça, des parents qui s'entendent bien et qui habitent près l'un de l'autre. Vous aviez deux frères aussi qui alternaient en même temps que vous, donc vous étiez trois à déménager chaque semaine.
C'est ça, oui. On était trois, deux grands frères, des jumeaux.
Alors, et ça s'est bien passé avec eux aussi? Ça vous a aidé peut-être, oui, à supporter ce déménagement permanent?
Je pense que c'était plus simple pour s'y faire au début, mais oui, après, parce que ça s'est également très bien passé pour eux.
Donc, et oui, chacun avait sa chambre chez votre père et chez votre mère?
Non, parce que à l'âge où ils ont divorcé, on était encore dans la même chambre, mais après, quand on a grandi plus tard, chacun a eu sa chambre des deux côtés. Oui.
Alors, donc, on va passer maintenant à la période d'après, c'était l'adolescence, et là, ça a commencé à se gâter. Vous avez demandé à casser le rythme, hein. Vous avez souhaité une sorte de garde alternée à la carte, alors racontez-nous pourquoi.
Pas vraiment, disons que le rythme d'une semaine, dans la plupart des cas me convenait. C'est juste après, selon les périodes, donc là c'était vraiment plus quand j'avais 16-17 ans. S'il y avait un besoin de rester plus souvent chez l'un, pour que ce soit des raisons de cours, par rapport à la distance au lycée, ou alors que des fois évidemment, quand on grandit, et pendant la crise d'adolescence, quelquefois c'est un peu plus tendu avec un des deux parents, il n'y a jamais eu de problème pour que je reste plus longtemps chez l'autre. Ça veut dire les deux étaient au courant.
Vous aviez parfois envie, marre de votre mère ou marre de votre père. Vous disiez, je pars chez maman ou je pars chez papa?
Oui. Enfin, après, je prévenais l'autre. Et puis après, les deux étaient d'accord. Il n'y avait aucun problème là-dessus.
Donc même pendant la crise d'adolescence, en fait, ils ont bien été à votre écoute, en vrai.
Ah oui, bah tout du long. Là-dessus, c'est vraiment, quelle que soit la période de ma vie, ça s'est toujours très bien passé pour ça.
Alors moi, j'ai une adolescente et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous poussait à dire je pars chez l'un ou plutôt chez l'autre. C'était quel type de conflit?
Des conflits qui pouvaient être liés des fois au cours, à l'heure à laquelle je pouvais rentrer le soir si je voyais des amis en rentrant du lycée.
Ouais.
Des raisons, je dirais, qui sont juste bêtes, hein, comme souvent à l'adolescence, où nous, ça nous paraît être un monde, on en fait un monde, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose.
Et est-ce que vos parents, il y en avait un qui était plus cool que l'autre, justement, à l'adolescence, sur les heures de sortie?
Dans l'ensemble, non, ils étaient assez d'accord là-dessus aussi, mais bon, on va dire que je pense que du côté de ma mère, c'était un peu plus tranquille.
Tranquille, ça veut dire?
Elle était peut-être un peu moins sévère.
Oui. Et donc, quand vous demandiez à changer de maison alors que ce n'était pas prévu dans la garde, comment vos parents réagissaient-ils? Toujours bien? C'était toujours OK? Il n'y avait jamais de problème?
Ah oui, non, c'est ce qu'ils disaient, c'est tu reviens quand tu veux et on reprendra le rythme quand tu penses que c'est bon.
Donc, et vos frères aussi demandaient de temps en temps des changements, des modifications de la garde?
C'est déjà arrivé, mais après, c'est quand même vraiment des cas qui sont vraiment très rares. Hein. Ce n'est pas arrivé très souvent.
C'était que vous, quoi?
Non, mes frères, ça est déjà arrivé aussi, mais c'était de temps en temps, c'était peut-être même pas une fois dans l'année.
Et pour les vacances, alors, comment ça se passait?
Alors, pour les vacances, soit on gardait le une semaine sur deux, selon si c'était les petites vacances ou les grandes vacances. Et après, si un des deux parents nous demandait à partir deux ou trois semaines avec les enfants, il n'y avait aucun problème. L'autre était d'accord et...
Ah oui, donc on voit bien que l'important, c'est quand même que les parents s'entendent bien. Est-ce que vous avez aussi choisi de passer le bac plutôt chez votre mère? Pourquoi?
Sur les dernières semaines, parce qu'elle habitait à 5 minutes à pied de mon lycée. Et mon père était plus à 20-25 minutes. Donc c'était plus simple pour les dernières révisions et même la semaine du bac pour pouvoir me rendre sur mon lycée.
D'accord. Et est-ce que c'était quand même, je crois que vous aviez 6 ans, aujourd'hui vous en avez 27, donc c'était il y a presque 20 ans. Est-ce que vous étiez un des rares dans votre classe ou dans votre école, être en gala alterné? Comment vous regardez vos copains?
En fait, ça m'a jamais marqué parce que j'avais peut-être pas le sentiment que mes parents étaient. Enfin, je savais qu'ils étaient divorcés, mais j'avais pas l'impression d'être exclu ou quoi. Et par rapport à mes copains, c'est vrai que il me semble pas qu'il y en avait beaucoup qui avaient des parents divorcés, mais ça a jamais fait de différence avec qui que ce soit.
Et finalement, si aujourd'hui, je sais pas, vous avez 27 ans, vous pourriez avoir des enfants, est-ce que si jamais il y avait ce problème-là qui se présentait, est-ce que vous utiliseriez cette garde alternée pour vos enfants?
Oui, sûrement, oui.
Ça vous en garde un bon souvenir? Vous pensez que c'est une bonne solution?
Ah, de mon point de vue, oui. Vu comment ça s'est déroulé pour moi, enfin pour mes frères et moi, oui, c'est super bien passé, donc moi je le recommanderais.
Et il y a juste une question, c'est-à-dire que souvent les enfants se plaignent d'avoir à déménager une semaine sur deux, ça vous a pas posé problème non plus?
Non, parce qu'on avait des affaires chez notre père et chez notre mère, et le seul truc qui déménageait finalement c'était nos livres de collège.
Et quand vous oubliez quelque chose chez papa ou chez maman, c'était pas très loin pour aller le chercher, c'est ça?
Non, voilà, on peut un aller-retour en voiture de 10 minutes et puis c'était fait.
Donc c'était idyllique. Merci beaucoup Lucas pour votre témoignage. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Élodie qui nous racontera comment elle, en tant que maman, a dû apprivoiser la garde alternée.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. Faites le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, c'est le standard d'Europe 1. Et puis à votre disposition également les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission.
15h, 16h, Ève Roger sur Europe 1.
Obligé de baisser la tête quand je vois une famille unie. Inscription scolaire, j'ai coché parent unique. Mère seule en live, vu que j'ai pas de père. À force de chercher à aimer les autres, on finit par se perdre. Chef de famille précoce.
Père absent, un titre que l'on retrouve sur l'album La force du nombre de Fababy, sorti en 2013. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. La garde alternée cet après-midi est-elle finalement la meilleure solution pour les enfants de parents de divorcés? On vous pose la question et vous intervenez jusqu'à 16h. Nous sommes avec Ève Roger.
Oui, maintenant nous sommes en ligne avec Élodie. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Bienvenue sur Antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Élodie?
Alors, je vous appelle de région parisienne et j'ai 38 ans.
Alors, vous vous êtes séparée de votre ex-mari alors que votre fils Nathan avait 3 ans et vous avez décidé d'alterner chacun une semaine sur deux dans l'appartement que vous aviez acheté ensemble. C'est bien ça, c'est vous qui faisiez la garde.
Exactement.
Comment ça s'est... C'était une semaine chacun, c'est ça?
Voilà, exactement. Et donc, du coup, bah, ça permettait pour le moment, au départ, à notre fils de garder ses repères. Et puis, voilà, d'avoir donc toujours la même chambre avec ses jouets. Et puis, c'était juste papa ou maman qui déménageaient une semaine sur deux. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont beaucoup dans l'instant présent. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance de ne pas avoir de manque pendant ces semaines-là.
Donc, chacun de vous deux, vous quittiez l'appartement, vous alliez ailleurs.
Ouais.
Alors, je ne sais pas, vous alliez où vous-même?
Alors moi en fait, alors c'était sur Orléans et je travaillais déjà sur Paris. Donc en fait, j'allais chez des amis à moi, voilà, pour faire une semaine plus complète parisienne, parce que du coup j'avais 4 heures de transport par jour quand je faisais les allers-retours tous les jours. Et donc ça me permettait de faire des plus gros horaires au travail et puis voilà, de pouvoir aussi faire des terrasses, voilà, avec les copains, les copines, chose que je ne faisais plus en étant jeune parent aussi.
Parce
donc,
que...
ça aide aussi à la séparation, je pense.
C'est ça.
Voilà, au juste équilibre.
Est-ce qu'au début, vous avez quand même eu du mal à vous séparer de votre fils, là, une semaine sur deux?
Oui, ça a été hyper dur. La première fois que je l'ai laissé à l'école et que je savais que je n'allais pas le revoir avant une semaine, j'ai pleuré, je crois, 2 heures dans ma voiture avant de pouvoir rejoindre mon travail. Mais,
qu'est-ce que vous éprouviez à ce moment-là? C'était quoi?
Bah, c'était une profonde tristesse de pas. Enfin, moi, mon fils, j'avais jamais été séparée de lui, donc c'est compliqué, quoi. Même maintenant, je sais que. Enfin, maintenant, il va avoir 10 ans bientôt. Là, il a 9 ans et demi. Je le laisse aller chez des copains. Dormir, c'est toujours un peu compliqué. Même quand il est encore maintenant chez son père, j'ai du mal à aller dans sa chambre quand il est pas là, quoi.
Et après, vous nous avez dit que finalement, vous étiez un peu habituée, parce qu'il y a des avantages aussi à avoir une semaine libre.
Bah, en fait, déjà, bon, il y a la séparation quand même aussi à digérer et le fait voilà, de pouvoir se retrouver avec des amis, ressortir à nouveau, être entouré, parce que c'est hyper important hein, quand on se sépare aussi d'être entouré et soutenu. Bah, du coup, voilà, ça permet aussi de se dire, ah oui, enfin, il y a aussi ces côtés positifs-là, à pouvoir aussi finir plus tard le travail au lieu de courir à prendre le train, de pas vraiment avoir d'horaire, ni d'horaire de déjeuner, de dîner ou
une forme de liberté, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, du coup, là, on se retrouve comme quand on était célibataire, sans enfant, quoi. Donc, sans horaire.
Mais dites-moi, si vous dites, vous avez souffert de cette séparation, c'est-à-dire que si vous aviez eu le choix, vous auriez pas choisi la garde alternée? Vous auriez préféré la garde exclusive?
Non, je pense pas, parce que je pense, voilà, même si j'étais plus amoureuse de mon mari, enfin qu'on était plus amoureux, je l'ai quand même choisi, je l'ai épousé et j'ai fait un enfant avec lui, parce que c'est quelqu'un de bien, donc j'aurais pas pu. Moi, j'ai grandi, je suis fille de parents divorcés, avec qui, voilà, du coup, moi, ça s'est très mal passé, du coup, j'ai pas revu mon père après le divorce, et voilà, je voulais surtout pas que mon fils connaisse ça, parce que son père est quelqu'un de très bien. Et il était très impliqué aussi dans la paternité, donc du coup, je voulais pas lui.
Vous avez fait un effort en fait. Vous avez fait un effort pour
qu'il
y ait le lien persiste entre le père et votre
c'est
fils.
Ça.
Mais ce qui est
voilà.
étonnant
Moi,
dans
j'ai...
votre histoire, c'est que à l'âge de 6 ans, votre fils a demandé à habiter chez vous tout le temps.
Ouais, bah parce qu'en fait, parce qu'il y a eu un deuxième système de garde alternée, comme j'étais sur Paris. Et que je faisais de nombreux trajets et ça devenait compliqué. Je partais de chez moi, il était 6h du matin, je rentrais, il était 21h. Et du coup, tout petit, je le voyais quasiment pas la semaine et c'était compliqué. Donc, j'ai proposé à son père soit qu'il l'ait tous les week-ends, soit qu'il l'ait la semaine. Et du coup, il a préféré l'avoir la semaine parce que moi, j'ai eu la chance de refaire ma vie assez rapidement par surprise. Hein.
Nous l'entendons derrière vous.
Voilà, c'est ça. Et par contre, bon, lui n'avait pas refait sa vie, donc bref, avoir la semaine pour pouvoir avoir ses week-ends.
Enfin, si je résume, en gros, vous aviez la semaine et le week-end, vous alterniez semaine et week-end, et à un moment, votre fils a dit stop.
Oui, en fait, il me voulait aussi la semaine. En fait, je pense que après, comme j'ai emménagé vraiment en région parisienne avec mon compagnon, tout ça, je pense qu'aussi, il voulait aussi avoir ce schéma-là. Tout le temps, en fait.
Mais alors, comment a réagi votre ex-mari? Parce que c'est quand même dur d'entendre, de s'entendre dire qu'un enfant veut habiter chez sa mère.
Bah, au départ, pas forcément bien, mais enfin, il ne l'a pas montré. Il est toujours hyper pudique. Enfin, on a toujours fait les choses pour que Nathan vraiment ne sentent pas voilà de conflit ou quoi que ce soit entre ses parents. Donc on a vraiment toujours tout fait pour le bien-être de Nathan. Donc comme il l'a souhaité, on lui a expliqué. Du coup, j'ai laissé un week-end supplémentaire entre chaque vacances scolaires. Pour qu'il l'ait le plus souvent, enfin plus souvent qu'un week-end sur deux. Parce qu'au départ, j'avais dit, mais si tu veux, je te laisse tous les week-ends. Et lui avait parfait sa vie et donc souhaitait avoir quand même un week-end sur deux de dispo. Donc c'est pour ça que ça s'est transformé, voilà, en quasi-garde exclusive maintenant.
Et aujourd'hui, quel bilan vous faites ? Est-ce que vous regrettez la période de la garde alternée stricte ?
Non du tout, parce que bah, moi aussi, ça m'a permis de pouvoir aussi prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Parce que voilà, il fallait... en fait, je pense qu'il faut décorréler sa vie sentimentale et son statut de parent. Parce que du coup, ça peut faire beaucoup de mal à l'enfant. Donc, parce que du coup, moi, j'ai mon fils, il est hyper épanoui. Nous, le directeur de la maternelle, je savais même pas, dans sa classe, en fait, ils étaient 6 à être avec des parents qui se séparaient en maternelle hein, quand même. Et il nous avait félicité parce qu'il avait dit, voilà, j'ai jamais vu un enfant aussi épanoui, heureux, on dirait que...
Un modèle d'enfant lui, épanoui, quoi.
Oui, voilà, parce que je pense que ce qu'il faut faire, c'est écouter ce qu'ils veulent, quoi, et surtout ne pas être en conflit.
Bon, vous êtes finalement très satisfaite. Merci beaucoup, Élodie, et bravo de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons avec Geoffrey, enfant de parents divorcés.
Beaucoup de témoignages sur Twitter, Eve, avec Vincent, par exemple, qui nous dit « Le problème de la garde alternée, c'est que les parents doivent habiter dans le même quartier pour l'école et quand t'es pas dans la même région, c'est impossible. »
Europe 1.
Si comme Vincent, vous souhaitez vous aussi nous laisser un petit message, n'hésitez pas à composer le 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter la page Facebook de notre émission.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire.
Les divorcés Michel Delpech, classé numéro 1 des ventes en janvier 1974. À l'époque, le divorce par consentement mutuel n'est pas entré en vigueur. La loi sera instaurée le 11 juillet 1975. Avec vous, Ève Roger, on parle de la garde alternée cet après-midi sur Europe 1. Une semaine chez papa, une semaine chez maman, deux parents, deux maisons. Est-ce finalement le meilleur mode de garde pour les enfants de parents divorcés ? On attend vos appels au 3921.
Nous sommes maintenant en ligne avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour, merci.
Quelle voix ! Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Geoffrey ?
Alors j'ai 27 ans et je vous appelle de Massy dans l'Essonne.
Alors Geoffrey, pour vous la garde alternée a été mise en place après une longue bagarre judiciaire entre vos parents. Comment l'avez-vous vécu ? Je crois que vous aviez une dizaine d'années à l'époque.
C'est ça. Alors c'était un petit peu avant, j'avais 6 ans à l'époque. Le temps que ça se fasse au niveau de la décision avec la justice, etc. Voilà, pendant 3 ans, effectivement, il y a eu un acharnement un petit peu avec les différents avocats des deux parties.
C'est votre père qui souhaitait avoir la garde alternée, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. J'étais à plein temps chez ma mère et à l'âge de 10 ans, il l'a obtenue. Donc, le rythme était le suivant, une semaine, une semaine.
Et c'était un peu compliqué pour vous, je crois, parce que vos parents, justement, n'habitaient pas dans la même ville. Pour aller à l'école, voir les amis, c'était pas facile.
Voilà. Alors, la décision de justice, c'était de dire on habite la ville d'à côté au maximum pour un petit peu favoriser ce passage. Mais même comme ça, voilà, pour moi, c'était compliqué. Ouais, pour être honnête, c'était vraiment compliqué.
Mais une ville d'écart, ça veut dire qu'il y avait combien de kilomètres entre vos deux domiciles ?
Bon, à peu près 8.
8 ? 10. Et vous dites que c'était compliqué pour voir les amis parce que une fois que j'étais chez votre père, vous étiez un peu isolé.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on est jeune, on n'a pas de moyens de transport, enfin voilà, on peut pas prendre les transports tout seul. Il faut absolument qu'on soit déplacé en voiture et donc on est assisté quelque part. Et moi, je pouvais pas voir mes amis une semaine sur deux.
Ah oui, et c'était donc très contraignant pour vous. Mais est-ce que à l'époque vous vous entendiez bien avec vos deux parents ?
Oui, enfin plus ou moins. Je m'entendais plus avec mon père pour être honnête qu'avec ma mère.
Ah oui, alors c'était plus compliqué d'habiter chez votre père, mais vous entendiez mieux avec votre père qu'avec votre mère.
Voilà.
C'était compliqué dans tous les sens.
Compliqué l'histoire, effectivement.
Mais après, à l'adolescence, vous dites « j'en ai pris mon parti » de cette garde alternée un peu chaotique. Et vous avez même pris le parti d'en jouer pour vous protéger, surtout au moment des bulletins. Alors racontez-nous ça.
Exactement. C'est que vers l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai décidé de prendre les choses en main, entre guillemets. Et là, je me suis dit « bon, je ne vais pas le vivre comme une contrainte toute ma vie ». je vais vraiment aller de l'avant. Et là, j'en ai joué. J'en ai joué clairement. C'est-à-dire que quand il y avait les bulletins, vu que mon père était beaucoup plus sévère avec moi, ben, je restais chez ma mère.
Vous voilà. Saviez précisément à quel moment arrivaient les bulletins, alors?
Oui.
Ah oui, oui. Et quel prétexte, ouais. Et quel prétexte vous donniez pour dire « je préfère rester chez ma mère ce soir »
Bah, je trouvais tout ce que j'avais sous la main. C'est-à-dire que je disais qu'avec maman, je devais aller au cinéma, on devait aller acheter des affaires, faire du shopping ou sortir entre nous. Voilà. J'essayais de trouver un petit peu tout ce que j'avais sous la main à l'époque.
Et votre mère était dans la combine?
Non.
Ah non plus?
Ah non, 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 non. Ah non, 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 sinon elle n'aurait pas été d'accord.
D'accord, et vous, mais donc ça vous a permis, ça vous a soulagé d'une certaine façon. D'une contrainte, vous avez fait une force.
Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Elle ne le savait pas. De toute façon, elle ne l'aurait pas accepté. Mais effectivement, ça, j'en ai joué pour que ce soit une force, oui.
Et après, je crois qu'aussi, vous en avez profité aussi. Là, vous avez menti à vos deux parents pour aller voir des petites copines.
Voilà, ne rentrez pas trop dans les détails, mais oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est que je disais à mon père, le vendredi soir, je lui disais, voilà, je vais aller sortir, je vais chez maman, etc. Bon, je vais chez des amis, mais je rentre chez maman, je vais dormir chez elle, t'inquiète pas si je ne suis pas rentré. Voilà, je prenais des affaires, et puis bah, je revenais le dimanche chez ma mère en disant que j'étais chez papa. Et ça, effectivement, je l'ai fait, bon, je ne l'ai pas fait tous les week-ends, mais je l'ai fait de temps en temps.
Et ils, ça marchait plus ils bien. Étaient dupes ils vous ont cru?
Oui, enfin, ils m'ont cru parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas forcément en meilleurs termes. Enfin, ils n'étaient pas en bons termes. Donc, ils ne se parlaient pas forcément. Ils ne se parlaient pas forcément.
Donc, ils ne pouvaient pas croiser les informations.
Voilà.
Alors, ouais. Je voudrais terminer par une question un peu sérieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes reconnaissant à votre père de vous être battu pour avoir votre garde?
Oui. Oui, concrètement, oui. Parce que, après, c'est deux écoles différentes. Mais ma mère m'a apporté des choses que mon père ne m'a pas apporté, et inversement.
Vous sauriez me dire
quoi?
Là,
maintenant.
Vous sauriez me dire quoi, ce que votre mère vous a apporté et votre père vous a apporté?
Bah alors, ouais, pour être précis, ma mère elle m'a apporté plus de l'affection, de la tendresse, elle est toujours là, c'est une maman poule. Mon père, il était très sévère, il a toujours exigé le meilleur. Donc dans les deux cas, j'ai appris des deux. Clairement, j'ai appris des deux, ça m'a fait avancer dans la vie. Et là, maintenant que j'ai du recul, avec l'âge, bah, je peux vous dire que je les remercie tous les deux. Sur le coup, ça m'a fait souffrir, mais pour le coup, j'en ai fait une force et j'en suis sorti grandi.
Eh ben, on est très content pour vous, Geoffrey, pour votre témoignage. C'est très intéressant. Merci mille fois. Dans quelques instants, nous serons avec Serge Fez, psychiatre et responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Juliette nous a laissé un petit message. Elle a un petit peu remonté. Inadmissible que lors d'un divorce, les enfants, dans le cas où ils ne sont pas en danger, soient systématiquement retirés de leur papa et confiés en totalité à leur maman. La garde alternée doit être de fait. Les parents sont égaux et complémentaires.
Europe 1.
Vous pouvez nous faire part, vous aussi, d'un petit commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore la page Facebook de l'émission et bien sûr le 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute. Vous êtes bien, oui, sur Europe 1 jusqu'à 16h, partageant nos expériences de vie avec vous, Ève Roger. Il est question de la garde alternée cet après-midi.
Oui, je m'adresse maintenant à vous, Serge Fez. Vous êtes psychiatre au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Cet après-midi. Alors, la garde alternée existe depuis plus de 15 ans maintenant dans la loi. Est-ce qu'avec le recul, on peut mesurer son impact réel sur les enfants?
Oh bah oui, certainement, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans ce système de résidence, dans ce système de résidence alternée. Et il y en aura sûrement de plus en plus dans les mois et les années qui viennent. Donc je reçois maintenant de plus en plus régulièrement des couples et des familles qui ont choisi ce système de résidence.
Quelle conclusion on peut en tirer? Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion sur est-ce que c'est un bon système finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à une époque?
Écoutez, en tout cas, les parents qui l'ont choisi, c'est justement des parents qui ont envie qui anticipent le fait que ça va être un plus pour l'enfant, que ça va être aussi un plus pour eux personnellement, et donc ils font tout pour que ça se passe bien. Et dans les faits, ça se passe bien, c'est-à-dire que les enfants sont épanouis du fait d'avoir une relation très équilibrée entre leur père et leur mère, entre la famille de leur père et la famille de leur mère bien souvent. Comme c'est des parents qui doivent se mettre d'accord en permanence par rapport à l'enfant, ça veut dire qu'ils sont très en relation l'un avec l'autre et très en communication, Donc, l'enfant ne se sent plus pris dans des conflits de loyauté où il doit choisir entre son père, sa mère, ou tirailler la relation avec l'un ou avec l'autre. Donc, ça se passe plutôt bien dans la mesure où, vous savez, la résidence alternée, c'est 15 à 20% des situations, oui, de séparation, donc, oui, c'est pas beaucoup, hein. Donc, c'est quand même des situations qui sont choisies et on fait tout pour que ça se passe bien. Alors, le problème, c'est si on impose une résidence alternée à des parents qui ne le souhaitent pas ou, oui, qui sont très en conflit, eh bien, là, effectivement, les choses se passent moins bien.
Et est-ce qu'il y a encore un âge en dessous duquel la garde alternée n'est pas recommandée? On a parlé, certains disent 6 ans, 3 ans. Est-ce que vous avez une philosophie là-dessus?
Si vous voulez, ce qui est problématique, c'est que tous les enfants sont pas pareils. Tous les enfants ont pas les mêmes modes d'attachement. Toutes les histoires familiales ne sont pas les mêmes. Donc c'est très difficile de donner une espèce de calendrier stéréotypé qui conviendrait à tous les enfants. Ce qui convient, c'est que, encore une fois, on s'ajuste. Que les parents aient suffisamment d'intelligence et suffisamment de lien entre eux pour s'ajuster aux besoins de l'enfant. Il est très clair qu'on ne va pas demander à un bébé de 3 mois ou de 6 mois de passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. C'est une pure folie parce que ça ne correspond pas au développement d'un enfant. Donc, la résidence alternée, ce qui est important, c'est de la mettre en place très progressivement et en bonne intelligence, en testant petit à petit, comment l'enfant va, comment est-ce qu'il réagit aux séparations, comment est-ce qu'il supporte un séjour d'abord 2 jours, puis 3 jours, puis peut-être un petit peu plus chez chacun des parents.
Il faut s'adapter.
En tout cas, oui, il faut s'adapter
à l'enfant. Mais on vient d'entendre un témoignage où c'est un enfant de 6 ans qui a réclamé d'arrêter la garde alternée. Alors, est-ce qu'on doit être à son écoute et aller dans son sens?
En tout cas, on doit être à son écoute. On doit essayer de comprendre qu'est-ce qui lui déplaît par rapport à cela. Est-ce que c'est l'organisation des choses qui est trop lourde pour lui? Est-ce que il a une chambre dans laquelle il se sent bien, par exemple, et une chambre dans laquelle il se sent pas bien? Est-ce que dans la famille de son père, il a, je ne sais pas, des enfants de l'autre conjoint avec qui il a des problèmes? Si vous voulez, il faut décrypter la situation.
Essayer de comprendre.
Oui. Chaque situation est différente. Et un enfant qui est en résidence alternée, encore une fois, il n'est pas seulement entre ses deux parents, il est souvent entre deux familles. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une famille dans laquelle il se sent mieux que l'autre. Ça n'a rien à voir avec ses parents. Il a peut-être, encore une fois, des quasi-frères et sœurs, comme on dit, avec qui il s'entend bien d'un côté et pas de l'autre. Donc, tout ça, c'est à évaluer.
Et après, on décide, mais on ne doit pas tout de suite accorder à l'enfant. Enfin, une fois qu'on a compris, on peut en discuter. C'est ce que vous dites.
Absolument. Et
Parce que c'est très dur pour un parent de s'entendre dire que son enfant ne veut plus vivre avec lui.
Bien sûr.
Et comment on peut réagir en tant que parent?
Que c'est très dur, surtout si c'est un parent aimant qui fait tout ce qu'il peut pour le bien de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit vraiment de ne pas le prendre comme une attaque personnelle, mais comme quelque chose qui concerne un contexte global. Et que c'est dans ce contexte global qu'on va essayer de comprendre ce que l'enfant ressent. Il faut être en dialogue dans ces situations de séparation et de résidence alternée, mais même dans toute situation de séparation. Il faut être beaucoup plus proche de l'enfant et être au plus près de ce qu'il éprouve, comment il se sent en conflit à l'intérieur de lui, en conflit de loyauté peut-être par rapport à un de ses parents vis-à-vis de l'autre. Tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence de la relation.
Et l'adolescence aussi, c'est un âge un peu charnière, un peu difficile pour les enfants en garde alternée. Souvent, il y en a un qui dit « j'en ai marre de déménager toutes les semaines ».
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les adolescents, ceux qui tiennent par-dessus tout, c'est leur chambre. Beaucoup plus que leur père ou leur mère, ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas, mais enfin, et l'adolescence, on le sait, c'est un moment un petit peu égoïste, on pense davantage à soi qu'aux autres. Et donc, dans ce confort auquel les adolescents aspirent, eh bien, voilà, être dans leur chambre avec leurs affaires, leur petit bazar, ils en ont besoin. Et que c'est surtout ça.
Donc, ça veut dire c'est le fait d'avoir deux chambres qui est déstabilisant à cet âge-là.
Oui,
souvent, il n'en faut qu'une seule caverne.
Voilà, il n'en faut qu'une parce que c'est aussi dans cette chambre qu'ils accueillent leurs copains quand ils viennent à la maison, etc. Donc, c'est leur territoire. Et ça, c'est difficile de les faire bouger de ça.
Et donc, dans ces cas-là, pour le coup, on comprend et on peut laisser peut-être 15 jours, ou un mois, ou même donner l'autorisation de partir complètement chez l'un ou l'autre.
L'adolescence, c'est un moment où on peut plus facilement aménager les choses parce que l'enfant devient beaucoup plus autonome, que les séparations peuvent être plus longues avec un parent ou l'autre. Donc là aussi, chacun peut aménager. Par exemple, pendant un an, eh ben, il va être la semaine chez sa mère et les week-ends chez son père. L'année d'après, ça peut peut-être changer. Enfin bon, il s'agit vraiment de maintenir
de la souplesse. voilà, ouais. On a eu le même mot. Restez avec nous, Serge Fèze, psychiatre et responsable de l'unité de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière. Dans quelques instants, nous serons avec Arthur. Il a 17 ans et il connaît la garde alternée depuis 10 ans.
Et Camille nous a laissé un message sur Twitter, beaucoup de messages. Hein. Alors elle s'interroge, dites-moi pourquoi lors d'un divorce et la demande de la garde alternée, c'est toujours au papa de prouver qu'ils sont de bons pères pour avoir la clémence d'un juge. Et elle précise, je ne néglige pas le fait que certains pères soient plus que défaillants au même titre que certaines mamans.
Europe 1.
Vous pouvez vous aussi réagir au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis si vous êtes plus à l'aise sur les réseaux sociaux, on attend vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Pour Noël, les jours de l'an sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents.
Le monde moderne, la chanson signée Calogero, sous la plume de Marie Bastide, sa compagne, il évoque les familles recomposées. Une chanson qui figure sur l'album Feu d'artifice. Et jusqu'à 16h sur Europe 1, eh bien, il est question de garde alternée. 39-21 pour joindre Ève Roger.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Arthur. Bonjour Arthur, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Arthur, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 17 ans et je m'appelle Arthur Picou.
Et vous m'appelez de Paris peut-être, hein?
Oui, c'est ça.
Alors dites-moi, Arthur, ça fait 10 ans que vos parents se sont séparés. Donc vous êtes en garde alternée depuis le CP. Comment ça s'organise chez vous? C'est un peu particulier, cette garde alternée.
Alors oui, c'est un peu particulier. Alors le lundi soir et le mardi soir, je dors chez ma mère. Le mercredi soir et jeudi soir, je dors chez mon père. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est une semaine sur deux.
Alors vous dites, vos amis trouvent ça un peu bizarre comme système.
Oui, exactement. Mais c'était plus pratique pour nous parce que quand j'étais petit... ça faisait un peu long pour avoir une semaine un parent et donc l'autre parent nous manquait rapidement. Du coup, on a installé cette garde alternée et depuis, on fonctionne comme ça.
Et depuis, donc ça veut dire que vous déménagez quand même très souvent.
Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est un peu le côté un peu négatif. Mais bon, mes parents habitent assez
près l'un de l'autre.
Donc, c'est ça.
Et c'est un peu donc, négatif parce que vous avez le sentiment de jamais vous poser, peut-être.
Oui, aussi, mais c'est aussi... Enfin, c'est aussi un mode de vie aussi assez sympathique parce que comme ça, on peut changer d'air aussi. On ne reste pas toujours une semaine dans une maison, une semaine dans l'autre. Ça fait un peu de changement et ça a aussi des côtés assez...
Vous aimez le changement. Quand vous dites changer d'air, ça veut dire si jamais vous êtes un peu en conflit avec l'un ou l'autre, ça vous permet de partir tout de suite. C'est ça, changer d'air, ou ça veut dire autre chose?
Non, c'est ça. C'est comme ça... On reste pas, oui, si on est un peu en conflit avec sa mère, on voit son père deux jours après, donc on se dit c'est pas très grave.
C'est ça, les disputes avec les parents c'est sont moins courantes et moins violentes.
Il y en a pas souvent, mais...
Et vous dites aussi, ce qui était sympathique, c'est de ne pas avoir tout à fait la même éducation chez l'un comme chez l'autre, vous changez aussi d'ambiance.
Oui, c'est ça. C'est aussi assez drôle parce qu'on fait pas exactement la même chose chez maman ou chez papa.
Et par exemple,
pour les tâches ménagères.
Voilà, les tâches ménagères, c'est plutôt chez maman.
Oui, on ne participe plus chez maman parce qu'on est plus, et chez papa, c'est plus à la cool. On aide quand même, mais...
Mais quand même moins. J'espère que c'est pas des sœurs qui font le travail de tâches ménagères.
Pas du tout. C'est moi le plus grand, donc souvent c'est moi qui m'occupe des tâches ménagères. Mais
donc, est-ce qu'il y en a un qui est plus sévère que l'autre alors?
Non. Ils sont assez d'accord sur les punitions. Comme ils sont en bon rapport, ils s'appellent souvent, donc c'est à peu près la même chose des deux côtés, ou sauf parfois pour les heures de sortie où ça peut différer. Mais
c'est toujours votre maman qui est plus cool. Enfin non, elle est moins cool
sur
les tâches ménagères, ouais. Mais peut-être plus cool sur les horaires. Dites-moi, est-ce que l'avantage aussi, vous dites, c'est que vous avez tout en double?
Oui, ça c'est aussi un avantage. Quand on est petit aussi, pour Noël, pour Pâques ou les anniversaires, on les fête deux fois, donc ça c'est assez sympa. Et on n'est pas tout en double non plus, mais mais on peut apporter des trucs chez l'un ou chez l'autre. Ça, c'est le côté aussi, c'est sympa.
Et est-ce que c'est sympa aussi d'avoir un beau-père et une belle-mère de chaque côté?
Oui, c'est...
Ça vous apporte quelque chose ou pas?
Au début, oui. Ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes et aussi avec les demi-frères. Et les demi-frères, donc ça fait comme des nouvelles familles, de nouveaux amis sur qui on peut compter.
Vous dites au début, c'était pas toujours facile de considérer cette nouvelle famille comme votre famille.
C'est ça. Ça peut être compliqué au début parce qu'on les considère pas vraiment comme nos vrais frères, mais après on sait qu'on peut compter sur eux si on a un problème ou même ça fait une plus grande famille et je trouve ça sympa moi.
Ça fait plus de monde.
C'est ça.
Bon, en tout cas, vous, ça fait 10 ans que ça dure. Arthur, vous pensez que ça va durer longtemps encore, cette garde alternée
Ah oui, je pense. Je pense que jusqu'à que j'ai mon appartement, ouais. Que je prenne mon indépendant, je pense que c'est bien parti pour.
C'est sympa. Et vous espérez, vous comptez partir, quitter vos parents dans longtemps?
Ah, ça, je sais pas du tout encore. Je me suis pas encore vraiment posé la question. Mais pour l'instant, je suis bien. Enfin, c'est pas un désavantage. Moi, je vis comme ça et... Ça me plaît beaucoup et je prendrai mon indépendance quand j'en aurai l'occasion.
Quand il sera temps. Merci mille fois Arthur pour votre témoignage. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Thomas. Lui s'est battu pour avoir la garde alternée de sa fille. Elle avait seulement 10 mois.
La garde alternée, un sujet qui inspire sur les réseaux sociaux. Par exemple, Lounès nous dit « N'empêche, avoir la garde alternée des enfants, une semaine sur deux, tout en restant en couple, ce serait génial. » Et puis Gannette, t'imagines, t'es fan de foot, t'as des gosses en garde alternée et tu dois les déposer à 18h chez leur mère.
Europe 1.
Si vous aussi, vous souhaitez réagir et partager votre expérience, appelez-nous 39 21 50 centimes la minute. Et puis pour un petit commentaire, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1. Cet après-midi, on s'intéresse à la garde alternée. Est-ce finalement la meilleure solution pour les enfants de divorcés?
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Thomas. Bonjour Thomas, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous Thomas et d'où vous appelez-vous?
J'ai 33 ans et je vous appelle Lucie Mouineau.
Alors Thomas, vous avez insisté pour avoir votre fille en garde alternée alors qu'elle était très petite, 10 mois. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ça?
C'est vrai que dans la société, on entend souvent les gens parler que c'est la mère de famille qui doit avoir la garde, on va dire, en priorité. Et donc du coup, le papa, un week-end sur deux, etc. Et moi, je ne voulais pas ça du tout pour ma fille. Moi, je considère que ma fille a autant besoin de son père que de sa mère. Et donc, j'ai vraiment insisté pour avoir cette garde alternée à 50-50. Je ne me voyais pas voir ma fille moins de 50% du temps.
Et c'était aussi une semaine, c'était pas deux jours, trois jours, c'était vraiment...
Non, exactement, c'était une semaine. Après, on s'est toujours arrangé avec mon ex-conjointe dans le cas où on avait des besoins le travail, je ne sais quoi, mais ça a toujours été une semaine.
Et comment a réagi sa mère quand vous avez réclamé cette garde alternée, alors qu'effectivement, dans notre culture, on a plutôt tendance à dire que quand c'est un bébé, il vaut mieux le laisser à sa mère quand elle est toute petite?
Exactement, c'est exactement ça, c'est que le premier réflexe quand on a discuté la première fois, ça a été justement, est-ce que ça te va si tu l'as un week-end sur deux, etc. Donc du coup, moi j'ai tout de suite été dans cette discussion de non, mais en fait, j'estime vraiment que j'ai ma part à jouer dans l'éducation de ma fille et qu'on a tous les deux notre part à jouer.
Et comment vous avez réussi à la convaincre, votre ex-compagne?
Je pense que c'est par l'amour de ma fille. C'est-à-dire que je lui ai montré que je l'aimais. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'un père famille a toujours ce côté un petit peu OK, un peu sévère, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je suis un papa très, très aimant. J'adore ma fille, je la shoot énormément. Et donc, je lui ai montré que autant elle que moi avions les mêmes responsabilités, tant sur l'éducation que sur l'amour qu'on lui porte.
Les mêmes responsabilités, les mêmes compétences, en vrai. C'est ça que vous avez montré.
Exactement.
Et cette décision a été prise à l'amiable ou ça a été aussi une décision de justice?
Non, ça a été pris à l'amiable. Pourquoi? Parce qu'on a considéré, après c'était notre vision, on a considéré que passer devant la justice, c'était pas rendre service à notre fille. C'est-à-dire que passer devant la justice, c'est-à-dire que c'est un tiers qui décide de notre vie. Alors qu'en fait, prendre consciemment cette décision entre nous, c'est aussi penser à notre fille et se dire « Ok, on n'a pas besoin qu'une autre personne nous dise quoi faire. On est assez adulte pour se mettre d'accord et bien s'entendre sur cette décision-là pour que notre fille ne soit pas impactée. »
Mais vous avez eu quand même peur qu'on vous enlève la garde alternée. Donc vous dites « Vous avez été très conciliant », ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est vrai que j'ai été, avec cette image de la société où le père de famille doit avoir un peu moins sa fille, moi j'avais cette crainte. J'avais cette crainte un peu que la mère de ma fille m'impose un petit peu cette décision-là, d'en passer devant un juge, parce que en fait, c'est vrai que moi, j'ai, J'ai entendu des chiffres à la radio, je ne sais pas s'ils sont bons ou pas, mais comme quoi, voilà, plus de 70% des jugements allaient vis-à-vis de la mère.
Oui.
Donc, du coup, il y a toujours cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, de se dire, si la relation ne se passe pas bien avec la mère de la fille, j'ai beaucoup plus de chances de perdre la garde et de la voir moins souvent.
Donc, vous avez fait des compromis, c'est ça ? Vous avez...
Exactement.
Quel type de compromis ? C'est ça ?
C'est beaucoup sur le caractère, on va dire, on va essayer de beaucoup moins s'énerver sur des choses où on va beaucoup moins se battre, on va dire, sur des choses où on doit négocier, sur des gardes, sur du temps, sur l'école, etc. Par exemple typique, j'ai plutôt laissé le fait que l'école de ma fille soit dans la ville où habite la mère de ma fille plutôt que dans la mienne. Aussi pour ces aspects-là. Donc c'est pas mal de compromis où on va lâcher un petit peu à cause de ça, à cause aussi de ce...
Alors, restez avec nous, Thomas. Je m'adresse maintenant à Serge Éphèse. On parlait tout à l'heure de l'âge idéal pour la garde alternée. Là, on a l'exemple d'un homme et d'une femme qui ont une petite fille de 10 mois et qui ont fait un effort, on a l'impression presque surhumain, pour essayer de maintenir cette garde alternée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est formidable en entendant le papa qui a cette relation avec cet enfant, une relation d'attachement avec son enfant qui est de très grande qualité et qui a envie de la maintenir. Parce que le sens de la résidence alternée, c'est ça, c'est que justement les enfants ne perdent pas le lien avec leur père. C'est ce qu'on voit dans les gardes plus traditionnelles, avec les pères de week-end et de vacances, c'est que le lien avec le père, il s'effrite, il perd sa qualité, que les pères ont tendance à réinvestir à ce moment-là d'autres enfants d'une deuxième union ou les enfants d'une nouvelle conjointe, et que les choses deviennent plus complexes. Donc que ce papa ait tout fait pour maintenir ce lien d'amour avec sa fille,
Même si elle n'avait que 10 mois, c'est-à-dire que... Finalement, disait au début, l'âge importe peu.
Non. Il y a résidence alternée, si vous voulez, c'est un principe. C'est un principe que les deux parents ont la même place par rapport à l'enfant et vont exercer conjointement leur parentalité. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. C'est toutes les possibilités d'aménagement qu'il y a autour de ça. Mmh. Si vous voulez, un bébé de 10 mois, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre... Si ce bébé a bien supporté tout ça et s'est bien senti à travers tout ça, c'est formidable. Hein. C'est un bébé qui a beaucoup déjà de construction interne
qui est
peut
très aimé.
Supporter les séparations très tôt. Ça n'est pas le cas de tous les enfants. Donc ça, je tiens quand même à le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la résidence alternée. Ça veut dire qu'on peut inventer d'autres façons. Un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Deux jours chez l'un, deux jours chez l'autre, avec une nuit, etc. C'est-à-dire... aménager les choses pour que l'enfant s'y adapte le mieux possible.
Et juste pour terminer, Serge Fès, rapidement, justement, comment on reconnaît un enfant qui vit mal la résidence alternée, les séparations ? Quels sont les signes ?
Eh bien, c'est un enfant qui pleure, c'est un enfant qui grogne, c'est un enfant qui n'arrive pas à s'endormir, c'est un enfant qui fait des cauchemars, c'est un enfant qui s'alimente mal. Vous savez, les bébés, ils savent très très bien exprimer leur malaise intérieur.
Merci beaucoup Serge Éphèse pour votre éclairage. Merci beaucoup à Thomas aussi de nous avoir fait partager son expérience. Merci à Lucas, Élodie, Geoffrey et Arthur de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Alors on l'aura compris, à l'écoute de cette émission, la garde alternée est la moins mauvaise des solutions. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut plusieurs conditions. Que les parents s'entendent bien, très bien même, qu'ils habitent tout près l'un de l'autre et qu'ils aient les moyens d'offrir chacun une chambre à leur enfant. La garde alternée doit aussi être très souple, 2 jours, 3 jours, une semaine sur deux ou même 1 mois sur 2, à chaque âge, son rythme d'alternance. Et puis parfois, l'enfant peut demander de changer de système parce qu'il en a marre de trimballer sa valise d'une maison à l'autre, parce qu'il a besoin de repères. Il faut pouvoir l'entendre, même si c'est dur, et en discuter avec lui. L'important, c'est qu'il sente que ses deux parents s'intéressent à lui et qu'ils souhaitent avant tout son bien.
Et on peut continuer à en discuter, bien sûr, sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Demain, nous parlerons d'un sujet qui a mauvaise presse. La paresse, parce que c'est l'été qu'il faut ralentir le rythme. Si vous vous sentez paresseux, que ça vous fait du bien, si la paresse a permis de développer en vous de nouveaux talents, ou alors si vous n'arrivez pas à paresser et que vous le regrettez, appelez-nous au 3921 pour témoigner.
Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation de cette émission. Merci à Boris Pachinski à la réalisation. Et merci à vous Marlène.
Merci Eve, toujours un plaisir de passer cette heure à votre côté.
Je vous laisse maintenant avec Karima Charny pour 2 heures de musique. Laissez tout tomber, laissez-vous emporter. C'est dès 16h sur Europe 1. À demain.